Kim de Rudyard Kipling, chapitre 9. Zdoak était fils de Yet le sage, chef du clan des corbeaux. Itzwut, l'ours, veillait sur son apprentissage pour en faire un sorcier. Son corps était vif et plus encore son esprit. Face au danger, il redoublait de courage. Il dansait la terrible danse de Clou Quali pour amuser Itzwut l'ours. Légende de l'Oregon. Kim se jeta de tout cœur dans l'inconnu où l'emportait ce nouveau tour de roue. Il redeviendrait sahib pour un temps. Sur la foi de cette idée, aussitôt parvenu à la grand-route au-dessous de l'hôtel de ville de Simla, il se mit en quête de quelqu'un à impressionner. Un enfant hindou, âgé de quelques 10 ans, était accroupi sous un bec de gaz. « Où est la maison de Mr. Lorgan ?» demanda Kim. « Je ne comprends pas l'anglais, » fut-il répondu. Kim changea d'idiome en conséquence. « Je vais montrer. » Ils se mirent en route tous deux dans le crépuscule mystérieux, plein des bruits de toute une ville qui montait du ravin et des souffles frais qu'envoyaient les cimes du Jacko, couronnées de cèdres parmi les étoiles. Les lumières des habitations perchées sur le moindre espace de terrain nivelé faisaient, pour ainsi dire, un double firmament. Celle-là était fixe. D'autres appartenaient au rickshaw des Anglais, gens insouciantes et au verbe clair qui s'en allaient dîner. « C'est ici, » dit le guide de Kim. Il s'arrêta sous une véranda au bord même de la grand-route. Nulle porte n'en défendait l'entrée, mis à part une portière de perles et de joncs qui filtrait en lamelles la lumière intérieure. « Il est arrivé, » dit l'enfant d'une voix à peine plus haute qu'un soupir, et il disparut. Kim se rendit compte soudain que l'enfant avait été posté tout exprès pour le guider, mais sans s'émouvoir autrement, écarta la portière. Un homme, à barbe noire, une visière verte sur les yeux, était assis à une table, et un par un, du bout de ses mains courtes et blanches, cueillait des globules de lumière dans une coupe placée devant lui, les enfilait sur un cordon de soie qui brillait sous la lampe, sans cesser de fredonner à mi-voix. Kim devinait, au-delà du cercle de lumière, la chambre pleine de choses qui sentaient comme tous les temples de tout l'Orient. Une bouffée de musc, un relent de santal, et une exhalaison un peu écœurante d'essence de jasmin gonflèrent ses narines ouvertes. « Me voici, » dit enfin Kim en hindi. Les odeurs lui faisaient oublier qu'il lui fallait rester sahib. 79, 80, 81, compta l'homme en enfilant les perles l'une après l'autre, si vite que Kim pouvait à peine suivre ses doigts. Il fit glisser la visière verte et fixa Kim pendant une longue demi-minute. La pupille de son œil se dilatait et se contractait à la taille d'une piqûre d'épingle, comme à volonté. Il y avait un fakir auprès de la porte de Taxali qui possédait la même faculté et en tirait argent, surtout pour jeter des sorts aux dévotes faibles d'esprit. Kim observait avec intérêt. Son peu recommandable ex-ami avait en outre la faculté de remuer les oreilles à la façon des chèvres. Et Kim éprouva une déception à ce que ce nouveau personnage ne put l'imiter. « N'aie pas peur, » dit soudain Mr. Lorgan. « Pourquoi aurais-je peur ?» Tu vas coucher ici cette nuit et tu resteras avec moi jusqu'au moment de retourner à Nuklao. C'est un ordre. C'est un ordre, répéta Kim. Mais où vais-je coucher? Ici, dans cette chambre. Lorgan Sahib étendit la main vers l'ombre derrière lui. Soit, dit Kim avec calme. Maintenant? Il fit oui de la tête et souleva la lampe au-dessus de son front. Sous le flot de lumière jaillit des murs une collection de ces masques tibétains qui servent aux danses démoniaques, accrochées au-dessus des robes brodées de diables qu'on voit à ces inquiétantes fêtes. Masque cornu, masque furieux, masque de terreur idiote. Dans un coin, un guerrier japonais, cuirassé de fer et casqué de plumes, le menaçait d'une hallebarde et des panoplies de lances, de kandas et de kutars renvoyaient l'indécise clarté. Mais ce qui intéressa Kim bien davantage, il avait vu des masques pour les danses de diable au musée de Lahore, ce fut l'enfant hindou aux yeux veloutés qu'il avait quitté sur le seuil et apparu soudain les jambes croisées sous la table des perles, un petit sourire sur ses lèvres écarlates. « Je crois que l'organ sahib veut me faire peur et je suis sûre que le gosse du diable là sous la table veut voir ma peur. Cet endroit, dit-il à haute voix, ressemble à une maison des merveilles. Où est mon lit ?» L'organ sahib désigna un couvre-pied indigène dans un coin à côté des masques dont la hideur grimaçait, ramassa la lampe et laissa la chambre dans l'obscurité. « Est-ce l'organ sahib ?» demanda Kim en s'installant par terre. Pas de réponse. Il entendait cependant le souffle de l'enfant hindou et, guidé par le bruit, il traversa la pièce à plat ventre et lança un coup de poing dans l'obscurité en criant « Réponds, démon! Est-ce ainsi qu'on ment à un sahib ?» L'ombre lui renvoya, semble-t-il, l'écho d'un rire étouffé. Ce ne pouvait être son compagnon à la chair douillette, car ce dernier pleurait. Aussi Kim éleva-t-il la voix et appela-t-il tout haut. « L'organ sahib! Oh, l'organ sahib, est-ce par ordre que ton serviteur ne parle pas ?»« C'est par ordre. » La voix venait de derrière lui et il tressauta. « Très bien, mais rappelle-toi, murmura-t-il en réintégrant sa couverture, que je te battrai demain. Je n'aime pas les hindous. » Ce ne fut pas une nuit agréable, la pièce bruissant de voix et de musique. Kim fut réveillé deux fois par quelqu'un qui disait son nom. La seconde fois, il partit en campagne et finit par se cogner le nez contre une boîte qui s'exprimait sans aucun doute avec une langue humaine, mais dont l'accent n'avait certes rien d'humain. Cela semblait finir par une trompette de fer battue et se rattacher au moyen de fils à une boîte plus petite posée sur le plancher. Autant du moins qu'il put en juger au toucher. Et la voix, très dure, avec un bruit de rouet, sortait de la trompette. Kim se frotta le nez et sentit monter la colère. Comme d'habitude, il pensait en hindi. Ceci pourrait prendre avec un mendiant de bazar, mais je suis un sahib et le fils d'un sahib, ce qui est deux fois mieux, un élève de Nuklao. Oui. Ici, il passa à l'anglais. Un élève de Saint Xavier. Quel idiot, ce Mr. Logan. C'est quelque espèce de mécanisme comme une machine à coudre. Oh, c'est du toupet de sa part. Mais on ne nous fait pas peur comme cela, Nuklao. Non, bien hindi. Mais qui a-t-il? Ce n'est qu'un marchand. Je suis dans sa boutique. Tandis que Creighton Sahib est un colonel. Et je pense que Creighton Sahib a donné des ordres pour qu'il soit fait ainsi. Comme je vais battre cet hindou demain matin. Qu'est ceci? La boîte à trompettes vomissait un chapelet d'injures avec un raffinement dans l'outrage inédit pour Kim, le tout débité sur un ton élevé, indifférent, qui lui fit un moment dresser de courroux les cheveux ras de la nuque. Quand l'ignoble chose reprit haleine, Kim se sentit rassuré par la continuation d'un ronron persistant, pareil à celui d'une machine à coudre. « Chop, tais-toi » cria-t-il, et de nouveau il entendit un rire qui le décida. « Chop, ou je vous casse la tête !» La boîte n'en tint aucun compte. Kim empoigna la trompette de fer blanc et quelque chose s'ouvrit avec un bruit sec. Il avait évidemment levé un couvercle. S'il y avait un diable dedans, voilà le moment de se... Il renifla. C'était la même odeur que la machine à coudre du bazar.
Il allait nettoyer ce shaitan.
Il enleva sa jaquette et la plongea dans l'ouverture de la boîte. Quelque chose de rond et d'allongé fléchit sous la pression. On entendit un bruit de rouage et la voix s'arrêta. Comme il sied quand on écrase d'une veste pliée trois fois le cylindre de cire et le mécanisme d'un phonographe de prix. Kim acheva sa nuit en toute sérénité. Le matin, la présence de l'organ Sahib debout et le fixant d'en haut l'éveilla en sursaut.
Oh, dit Kim, fermement résolu à maintenir sa qualité de Sahib, il y avait une boîte cette nuit qui m'a insulté. Aussi l'ai-je arrêtée. Était-elle à vous ?
L'homme tendit la main.
Une poignée de main, O'Hara, dit-il.
Oui, c'était à moi.
J'ai de ces choses pour mes amis les Rajas, que cela distrait. Celle-ci est cassée.
Mais la leçon valait ça.
Oui, mes amis les rois aiment fort les joujoux.
Et moi aussi, parfois. Kim lui jeta un regard en coin. C'était un sahib, à en juger par ses habits. Mais l'accent de son ourdou, l'intonation de son anglais, l'eussent fait prendre pour tout plutôt que pour un sahib. Il semblait comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Kim avant que l'enfant n'ouvrît la bouche. Il ne prenait pas la peine de s'expliquer, comme le père Victor ou les maîtres de Lucknow. Enfin, suprême jouissance, il traitait Kim comme un égal sur le pied asiatique.
Je regrette que vous ne puissiez pas battre mon boy ce matin. Il dit qu'il vous tuera par le couteau ou par le poison. Il est jaloux.
Aussi je l'ai mis dans le coin, et je ne lui parlerai pas de la journée. Il vient d'essayer de me tuer. Il faut que vous m'aidiez à faire le déjeuner. Il est trop jaloux pour qu'on se fie à lui en ce moment.
Or, un sahib authentique importé d'Angleterre aurait fait toute une histoire de cette affaire. L'organe sahib en parlait comme d'un incident. Aussi simplement que Mahbub Ali, rappelant ses petites frasques dans le nord. La véranda à l'arrière du magasin surplombait à pic le ravin, et de là les regards plongés dans les tuyaux de cheminée des voisins, comme de rigueur à Simla. Mais bien plus que le repas purement à la persane que l'organe sahib prépara de ses propres mains, la boutique séduisit Kim. Le musée de Lahore était plus grand, mais il y avait ici plus de merveilles, poignards à écarter les démons et moulins à prière du Tibet, colliers de turquoise et d'ambre jaune, bracelets de jade vert, bâtons d'encens curieusement empaquetés dans des jarres, tout encroûtés de grenats bruts, masques de diable aperçus la nuit précédente sur un mur tendu de draperies bleu pan, images dorées de Bouddha et petits autels portatifs en laque, samovar russe au couvercle enrichi de turquoise, service de porcelaine coquille d'œuf dans de curieuses boîtes octogonales en rotin, crucifix d'ivoire jaune, japonais, l'organe sahib l'affirmait, tapis en ballot poudreux, exhalant une odeur affreuse, poussée derrière des écrans démolis et pourris aux marqueteries géométriques, aiguillères de Perse pour laver les mains après le repas, brûle parfum en cuivre dépoli, ni chinois, ni persan, à frise de diable fantastique. Ceinture d'argent mat qu'on peut nouer comme du cuir en lanière, épingle à cheveux de jade, d'ivoire et de jaspe vert, armes de toute forme et de toute nature, mille autres singularités encore, rangées dans des caisses, empilées ou tout bonnement jetées dans la chambre, ne laissait un espace libre qu'autour de la table de bois blanc boiteuse où l'organe sahib travaillait. « Tout cela n'est rien, dit-il en suivant le regard de Kim. J'achète parce que c'est joli, et parfois je vends, si la tête de l'acheteur me plaît. Ma besogne est sur la table, en partie du moins. »
Cela flamboyait dans la lumière matinale, en gerbes de rayons rouges, bleus, verts, où un diamant, çà et là, jetait l'éblouissement soudain presque cruel d'un éclair blanc bleuâtre. Kim ouvrit de grands yeux.
Oh, elles sont tout à fait bien, ces pierres. Cela ne leur fera pas de mal de prendre un peu de soleil. En outre, elles sont bon marché. Mais avec les pierres malades, c'est tout à fait différent. Il remplit de nouveau l'assiette de Kim. Il n'y a que moi qui sois capable de soigner une perle malade et de rebleuir les turquoises. Je vous accorde les opales. Le premier âne venu peut guérir une opale. Mais pour une perle malade, il n'y a que moi. Supposez que je vienne à mourir, alors il n'y aura plus personne. Oh non, vous ne pourrez rien faire avec les bijoux. Ce sera bien beau si vous arrivez à comprendre quelque chose aux turquoises un jour. Il se dirigea vers le fond de la véranda pour remplir au filtre la lourde cruche en terre poreuse. Voulez-vous boire ? Kim fit un geste d'assentiment. L'Organ Sahib, à 15 pieds de là, étendit une main sur la cruche. L'instant suivant, celle-ci était sur la table à toucher le coude de Kim, pleine à un demi-pouce près. Seule, marquait la place où elle venait de glisser, un petit pli de la nappe blanche. « Oh ! » dit Kim, absolument stupéfait. « C'est de la magie !» Le sourire de l'Organ Sahib montra que le compliment avait porté. « Renvoie-la. »«
Elle se cassera ?»«
Je te dis de la renvoyer. » Kim la lança à tout hasard. Elle tomba à mi-chemin et se brisa en 50 morceaux, tandis que l'eau s'égouttait à travers le plancher de la véranda.
« Je l'ai bien dit qu'elle se casserait. »«
N'importe.
Regarde. »
Regarde le gros morceau.
Le tesson gisait, une étincelle d'eau luisait encore dans sa concavité comme une étoile à terre. Kim regardait attentivement.
L'Organ Sahib lui posa doucement la main sur la nuque, la caressa 2 ou 3 fois et murmura.
Regarde, elle va revenir à la vie, morceau par morceau. Le gros morceau va commencer par se joindre aux 2 autres à droite et à gauche. Regarde. Pour un empire, Kum nous tournait la tête. Le léger contact le tenait comme un étau, une sorte de fourmillement agréable teinté dans ses veines. Un seul débris de la jarre apparaissait maintenant là où il y en avait eu 3. Et au-dessus, le contour estompé du vase entier. Il pouvait distinguer la véranda au travers, mais cela se précisait et prenait corps à chaque battement de son pouls. Cependant, la jarre, comme ses idées se suivaient lentement, la jarre s'était brisée devant ses yeux. Une nouvelle onde de flammes chatouilleuses courut le long de son cou comme l'Organ Sahib remuait la main. Regarde, elle reprend forme,
dit l'Organ Sahib. Jusque-là, Kim avait pensé en hindi.
Mais un tremblement l'agita. Et avec l'effort d'un nageur devant les requins qui se projettent à moitié hors de l'eau, son esprit s'élança hors des ténèbres qui l'engloutissaient et se réfugia dans la table de multiplication en anglais.
« Regarde, elle reprend forme, » murmura l'Organ Sahib. La jarre avait été fracassée.
Oui, fracassé, pas le mot indigène, il ne voulait pas penser à cela, mais fracassé en 50 morceaux. Et 2 fois 3 font 6, et 3 fois 3 font 9, et 4 fois 3, 12. Il s'accrochait désespérément à la répétition. Le contour estompé de la jarre se dissipa comme un brouillard. Après qu'on s'est frotté les yeux, il y avait là des tessons, Il y avait l'eau répandue qui séchait au soleil, et par les interstices du plancher de la véranda se montrait tout côtelé le mur blanc de la maison au-dessous.
Et 3 × 12 font 36.
Regarde. Reprend-elle sa forme ? Demanda l'Organe Sahib.
Mais elle est en pièces, dit-il haletant.
L'Organe Sahib marmottait doucement depuis une demi-heure.
Kim fit un effort pour détourner la tête.
Regardez, Déco, c'est comme avant.
C'est comme avant, dit l'Organe en observant Kim de tout près, tandis que l'enfant se frottait le cou.
Mais vous êtes le premier de beaucoup de gens qui l'aient jamais vu ainsi.
Il épongea son large front. Était-ce encore de la magie ? Demanda Kim d'un air soupçonneux.
Le sang ne tintait plus dans ses veines, il se sentait plus éveillé que d'ordinaire.
Non, ce n'était pas de la magie. C'était seulement pour voir s'il y avait une paille dans un joyau.
Parfois il arrive que les plus beaux joyaux volent en éclats dans la main qui sait s'y prendre. C'est pourquoi il faut faire attention avant de les monter.
Dites-moi, avez-vous vu la forme du pot ?
Un instant, cela s'est mis à pousser du sol comme une fleur.
Et alors qu'avez-vous fait ? Je veux dire, à quoi avez-vous pensé ?
Oh ! Je savais qu'il était cassé, et c'est à quoi j'ai pensé, je crois. Et il l'était cassé.
Est-ce que personne vous a déjà montré ce genre de magie ?
En ce cas, dit Kim, pensez-vous que je laisserai recommencer ? Je me sauverai.
Et maintenant, vous n'avez pas peur, hein ?
Pas maintenant. L'Organe Sahib les pieds de plus près que jamais.
Je demanderai à Mahbub Ali. Pas en ce moment, mais dans quelques jours, murmura-t-il.
Vous me plaisez.
Oui, vous me plaisez.
Oui et non.
Vous êtes le premier qui se soit jamais sauvé.
Je voudrais savoir ce que c'est qui...
Mais vous avez raison, il ne faut pas le dire. Pas même à moi.
Il se dirigea vers le demi-jour crépusculaire du magasin et s'assit à la table en se frottant les mains.
Un sanglot court, étranglé, sortit de derrière une pile de tapis. C'était l'enfant hindou, le nez tourné au mur avec obéissance, ses petites épaules secouées de chagrin.
« Ah, il est jaloux, si jaloux! Je me demande s'il essaiera encore d'empoisonner mon déjeuner et me forcera à le faire cuire 2 fois !»
Une voix entrecoupée répondit « Koubi, Koubi, Naïm !»«
Et s'il tuera l'autre garçon que voici ?»«
Koubi, Koubi, Naïm !»«
Jamais, jamais, non !»
Il se tourna soudain vers Kim.
« Que pensez-vous qu'il fera, vous ?»«
Oh, je n'en sais rien. Qu'il s'en aille, cela vaut peut-être mieux. Pourquoi a-t-il essayé de vous empoisonner ?»«
Parce qu'il m'aime énormément. » Supposez que vous aimiez quelqu'un, que vous en voyiez un autre arriver, et que l'homme que vous aimez le préfère. Que feriez-vous ?
Kim réfléchit. L'Organe répéta la phrase lentement en langue indigène.
Je n'empoisonnerai pas cet homme, dit Kim après réflexion. Mais je battrai le garçon, si ce garçon aimait mon homme.
Mais d'abord, je demanderai à ce garçon si c'est vrai.
Ah, il croit que tout le monde doit m'aimer.
Alors je crois que c'est un imbécile.
Entends-tu ? L'Organe Sahib parlait aux épaules qui tremblaient. Le fils de Sahib trouve que tu es un imbécile. Sors de là, et la prochaine fois que tu auras des peines de cœur, n'emploie pas si ouvertement la poudre d'arsenic.
Certes, le diable d'Assim fut seigneur de notre nappe ce jour-là.
Cela m'aurait rendu malade, enfant, et c'est un étranger. Alors, qui eut gardé les bijoux ? Viens.
L'enfant,
les yeux gros de pleurs, sortit en rampant de derrière le ballot et se jeta passionnément aux pieds de l'Ourgan Sahib avec une exubérance dans le remords qui émut Kim lui-même. « Je regarderai dans les flaques d'encre, je veillerai fidèlement sur les bijoux. Ah, mon père et ma mère, renvoie-le, lui !» Il désigna Kim d'une ruade de son talon nu.
« Pas encore, pas encore. Il s'en retournera dans quelque temps. Mais en ce moment, il est à l'école, dans une nouvelle madrissa. Tu vas être son professeur. Joue le jeu des bijoux contre lui, je marquerai. »
L'enfant sécha ses larmes d'un coup et s'élança vers le fond de la boutique, d'où il revint avec un plateau de cuivre.
Donne-les-moi, dit-il à l'Ourgan Sahib, qu'ils viennent de ta main, car ils pourraient dire que je les connaissais avant.
Doucement, doucement, répliqua l'homme, en extrayant d'un tiroir sous la table une demi-poignée de babioles dont le cliquetis sonna sur le plateau.
« Maintenant, dit l'enfant en agitant un vieux journal, regarde-les aussi longtemps que tu voudras, étranger.
Compte, et si besoin est, touche. Un regard me suffit à moi. » Il tourna le dos fièrement.
« Mais en quoi consiste le jeu ?
Quand tu les auras comptées et maniées et que tu seras sûr de pouvoir te les rappeler toutes, je les cacherai sous ce papier, et il faudra que tu en dises le compte à l'Ourgan Sahib. » J'écrirai le mien.
Oh !
L'instinct de rivalité s'éveilla dans son sein. Il se pencha sur le plateau. Il ne contenait pas plus de 15 pierres.
C'est facile ? Dit-il au bout d'une minute.
L'enfant glissa le papier sur les joyaux scintillants et se mit à griffonner dans un petit carnet indigène.
Il y a sous ce papier 5 pierres bleues, une grosse, une moins et 3 petites, dit Kim tout d'une haleine. Il y a 4 pierres vertes, l'une avec un trou. Il y a une pierre jaune, on peut voir au travers, et une comme un tuyau de pipe. Il y a 2 pierres rouges et
j'en ai compté 15, mais j'en ai oublié 2.
Non, donne-moi le temps. L'une était en ivoire, petite et brunâtre, et donne-moi le temps.
Une. 2. L'Ourgan Sahib compta jusqu'à 10. Kim secoua la tête.
« Écoute mon compte !» éclata l'enfant avec une trille de rire impétueux. « D'abord, il y a 2 saphirs avec des crapauds, un de 2 ratis et un de 4, à ce que j'en peux juger. Le saphir de 4 ratis est ébréché. Il y a une turquoise du Turkestan unie avec des veines noires, et il y en a 2 gravées, une avec le nom de Dieu en or, et sur l'autre, qui est fendue en travers, car elle sort d'une vieille bague, je ne peux pas lire les lettres. Nous avons maintenant en tout 5 pierres bleues. Il y a 4 émeraudes, mais il y en a une percée en 2 endroits, et une autre un peu rayée.
« Leur poids ?» demanda l'Ourgan Sahib d'un ton impassible.
« 3, 5, 5 et 4 ratis, à ce que j'en peux juger. Il y a un morceau de vieille ambre verdâtre pour une pipe, et une topaze d'Europe taillée. Il y a un rubis de Birmanie, de 2 ratis, sans un défaut. Il y a un rubis balai, pas net, de 2 ratis. Il y a un ivoire ciselé de Chine, représentant un rat qui hume un œuf. Et il y a enfin, une boule de cristal aussi grosse qu'une fève, montée sur une feuille d'or. Pour finir, il battit des mains.
« C'est ton maître, » dit l'Ourgan Sahib en souriant.
« Il savait le nom des pierres !» dit Kim, devenant pourpre. « Essayez encore, avec des choses ordinaires que lui et moi connaissions tous deux !»
Ils entassèrent de nouveau sur le plateau des bibelots divers ramassés dans la boutique, dans la cuisine même, et chaque fois, l'enfant gagna, à l'émerveillement de Kim.
« Bandez-moi les yeux, laissez-moi toucher une fois avec les doigts, et même alors je te battrai, malgré tes yeux ouverts, » dit-il d'un ton de défi. Kim frappa du pied de colère, humilié, quand le gamin tint parole. « Si c'était des hommes ou des chevaux, dit-il, je m'en tirerais mieux. Cette façon de jouer avec des pincettes, des couteaux et des ciseaux, c'est trop peu de choses. »
« Il faut apprendre avant d'enseigner, dit l'Ourgan Sahib. Est-ce ton maître ?»«
Je l'accorde. Mais comment fait-on ? »
En le refaisant et encore un grand nombre de fois jusqu'à ce qu'on y arrive parfaitement, car cela en vaut la peine. » L'enfant hindou, très émoustillé, osa donner à Kim des petites tapes dans le dos.
« Ne te désespère pas, dit-il, c'est moi-même qui t'apprendrai. »
« Et je veillerai à ce qu'on t'enseigne bien, » dit l'Organ Sahib, toujours en langage indigène, « car sauf mon gamin que voici,
quel enfantillage de sa part d'acheter tant d'arsenic, quand, s'il m'en avait demandé, je lui en aurais donné.
Sauf mon gamin que voici, je n'en ai pas rencontré depuis longtemps qui en valut mieux la peine.
Et nous avons encore 10 jours avant que tu retournes à Lucknow, où l'on ne t'apprend rien, à prix fort. J'espère que nous serons bons amis. »
Ce furent 10 jours de totale extravagance, mais Kim s'amusa trop pour réfléchir à leur folie. Le matin, on jouait au jeu des bijoux, parfois avec de vraies pierres, parfois avec des piles d'épées ou de dagues, parfois avec des photographies d'indigènes. Pendant l'après-midi, lui et l'enfant hindou montaient la garde dans le magasin, assis sans parler derrière une balle de tapis ou un paravent, à épier les nombreux et fort singuliers visiteurs de M. Lourgan. Ils venaient de petits rajas dont l'escorte toussait sous la véranda pour acheter des curiosités, telles que phonographes ou jouets mécaniques. Ils venaient des dames pour des colliers, et des hommes, semblait-il à Kim, cause de son esprit sans doute vicié par des initiations précoces, pour les dames. Des envoyés de cours indépendantes et feudataires, dont la mission avouée consistait en quelques réparations de colliers brisés, fleuves de lumière ruisselant sur la table, mais dont le dessein véritable semblait tendre à lever des fonds pour des maharanés irrités ou des rajas adolescents. Il venait des babous, à qui l'Organ Sahib parlait avec autant d'austérité que d'autorité, sans omettre néanmoins à la fin de chaque entrevue de leur remettre de l'argent en pièces de monnaie et en papier. De temps en temps, des assemblées d'acteurs indigènes, en redingotes longues, entreprenaient des discussions métaphysiques en anglais et en bengali pour la grande édification de M. Lourgan. Il s'intéressait toujours aux matières religieuses. À la fin du jour, Kim et l'enfant hindou, dont le nom variait au gré de l'Organ, devaient donner un compte détaillé de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur opinion du caractère de chaque homme, d'après ses traits, son parler, ses manières, et leur idée sur sa mission véritable. Après le dîner, la fantaisie de l'Organ Sahib se tournait de préférence vers ce qu'on pourrait appeler l'habillage, jeu auquel il prenait un intérêt fort instructif. Il savait maquiller les visages à merveille, et d'un coup de pinceau ici et là d'un trait, les rendre méconnaissables. La boutique regorgeait de toutes sortes de costumes et de turbans, et Kim revêtait tour à tour l'appareil d'un jeune mahométan de bonne famille, d'un marchand d'huile, et une fois, ce fut la joie d'un soir, d'un propriétaire du pays d'Oud, en grand costume de gala. L'œil de lynx de l'Organ Sahib savait découvrir le moindre défaut dans l'ajustement. Et, couché sur le divan de bois de teck usé, il expliquait pendant des demi-heures entières comment telle et telle caste parle, marche, tousse, crache ou éternue, et, car les « comment » importent peu en ce monde, le « pourquoi » de tout cela. L'enfant hindou jouait ce jeu-là maladroitement. Cette petite intelligence, plus affilée qu'un glaçon quand il s'agissait de nommer les bijoux, ne s'habituait pas à revêtir une âme étrangère, tandis qu'un démon s'éveillait et chantait de joie dans tout l'être de Kim lorsque, au gré des différents costumes, il changeait en même temps de langage et de gestes. Emporté par l'enthousiasme, il s'offrit un soir à montrer à l'Organ Sahib comment les disciples d'une certaine caste de fakir, vieille connaissance de Lahore, demandait la charité le long des routes, et quelle espèce de langage il emploierait à l'usage d'un anglais, d'un fermier pendjabi se rendant à une foire, ou d'une femme non voilée. L'Organ Sahib rit abondamment et demanda à Kim de demeurer comme il était, immobile, pendant une demi-heure,
les jambes croisées, barbouillées de cendres, l'œil sauvage dans l'arrière-boutique. Au bout de ce laps de temps, entra un babou, pâteau, obèse, dont les jambes ballottaient de graisse dans leurs bas. Et Kim le reçut par une volée de raillerie comme on en échange d'un ruisseau à l'autre. L'Ourgan Sahib, cela contraria Kim, observait le babou et non le jeu. « Je crois, » dit le babou pesamment en allumant une cigarette, « je suis d'opinion que c'est là un exploit on ne peut plus extraordinaire et on ne peut plus réussi. Si vous ne m'aviez prévenu, j'aurais certainement pensé que vous vous payez ma tête. » Dans combien de temps approximativement peut-il devenir aide-arpenteur suffisant? Parce qu'alors, je songerai à lui. C'est cela qu'il doit apprendre à Lucknow. Alors, dites-lui de se presser. Bonne nuit, l'Ourgan. Le babou sortit de son pas de vache embourbé. En repassant ce soir-là la liste des visiteurs, l'Ourgan Sahib demanda à Kim pour quelle sorte d'homme il prenait celui-ci. « Dieu sait !» dit gaiement Kim. Le ton eut peut-être trompé Mahbub Ali, mais manqua son effet avec le médecin des perles. « C'est vrai, Dieu, certes, le sait, mais je désire savoir ce que vous pensez. » Kim jeta un regard oblique à son compagnon, dont l'œil semblait avoir la puissance de forcer la vérité. « Je pense qu'il aura besoin de moi quand je reviendrai de l'école. » Mais d'un ton confidentiel, tandis que l'Ourgan Sahib hochait la tête avec approbation, « je ne comprends pas comment il peut, lui, porter beaucoup de costumes et parler beaucoup de langues. « Tu comprendras beaucoup de choses plus tard. Il écrit des histoires pour un certain colonel. » Il ne jouit d'une grande considération que dans Simla, et il est à observer qu'il n'a pas de nom, mais seulement un numéro et une lettre. C'est la coutume parmi nous. Et sa tête est-elle à prix aussi, comme celle de tous les autres? Pas encore, mais si certains garçons qui est assis en ce moment ici se levaient et allaient... Voyez, la porte est ouverte. Pas plus loin que certaines maisons à véranda peintes en rouge, derrière l'ex-vieux théâtre du bazar inférieur, et murmurer à travers les volets, c'est Huri Shundar Mukherjee qui a apporté les mauvaises nouvelles du mois dernier. Ce garçon-là pourrait emporter une ceinture pleine de roupies. Combien ? Dit promptement Kim. 500, 1000, autant qu'il en demanderait. C'est bien. Et combien de temps pourrait vivre le garçon en question après avoir donné ce renseignement? Il sourit avec espièglerie à la barbe même de l'Ourgan Sahib. Ah, là, il faut réfléchir. Peut-être avec beaucoup d'adresse pourrait-il vivre tout ce jour-là, mais pas la nuit. Sûrement pas la nuit. Alors, combien gagne le babou si sa tête est à si haut prix? 80, peut-être 100, peut-être 150 roupies. Mais l'argent est la moindre part du métier. De temps en temps, Dieu fait naître des hommes, tu en es un, doué du goût de voyager au risque de leur vie, en quête de nouvelles. Il s'agit aujourd'hui de choses lointaines, demain de quelques montagnes cachées, le jour suivant de certaines gens tout proches, qui ont commis quelque enfantillage contre l'État. Ces êtres-là sont en très petit nombre, et sur ce petit nombre, il y en a pas plus de 10 de bons. Parmi ces 10 derniers, je range le babou, et c'est curieux. Combien doit être grande et désirable une besogne capable de bronzer le cœur d'un Bengali? C'est vrai, mais le temps semble long, je suis encore un enfant, et il n'y a pas 2 mois que j'ai appris à écrire l'anglaisi. Je ne peux même pas bien le lire à l'heure qu'il est, et il faudra encore des années, de longues années, avant que je puisse être seulement aide-arpenteur. Prends patience, ami de tout au monde, Kim tressaillit au surnom familier. Que n'ai-je à moi quelques-unes seulement des années qui te pèsent tant?
je t'ai éprouvé en plusieurs petites choses. Cela ne sera point omis quand je ferai mon rapport au colonel Sahib. » Puis, passant soudain à l'anglais avec un rire grave, « Parole, O'Hara, je pense qu'il y a de l'étoffe en vous. Mais il ne faut pas faire le fier ni causer trop. Il faut retourner à Lucknow, se conduire comme un bon petit garçon, et piocher ses livres, comme disent les Anglais. Alors peut-être, aux prochaines vacances, si vous voulez, vous pouvez revenir chez moi. » Kim fit la moue. « Oh, je dis si cela vous plaît. Je sais où vous voulez aller. » 4 jours plus tard, on retenait une place pour Kim et sa petite malle à l'arrière d'un tonga à destination de Kalka. Il avait pour compagnon le babou cachalot, lequel, en châle à franges enroulées autour de sa tête, et sa jambe gauche informe dans un bas à jour ramené sous lui, grelottait et grognait dans le froid matinal. « Comment se fait-il que cet homme soit l'un des nôtres ?» pensait Kim en considérant le dos gélatineux que ballottaient les chaos de la descente. Et cette réflexion le conduisit à une série d'agréables rêves. L'organe Sahib lui avait donné 5 roupies, somptueuse largesse, avec l'assurance de sa protection s'il travaillait. Différemment de Mahboub, l'organe Sahib avait mentionné de la façon la plus explicite le salaire qui récompenserait son obéissance, et Kim n'en demandait pas davantage. Si seulement, comme le babou, il pouvait se voir promu à la dignité d'une lettre et d'un numéro, et d'une tête à prix, un jour il aurait tout cela, et davantage, un jour il atteindrait peut-être à la gloire d'un Mahboub Ali. Les toits et les terrasses de ces chasses nocturnes, ce serait la moitié de l'Inde. Il suivrait des rois et des ministres, comme jadis il avait suivi des vakils et des saute-ruisseaux à travers la ville de Lahore pour le compte de Mahboub Ali. En attendant, il voyait devant lui le présent, Saint-Xavier. Perspective nullement désagréable. Il allait trouver des nouveaux à qui montrer sa condescendance et avoir des récits d'aventures de vacances à écouter. Le jeune Martin, le fils du planteur de thé de Manipur, s'était vanté qu'il irait en guerre avec un rifle contre les chasseurs de têtes. Cela se pouvait, mais pour sûr, le jeune Martin n'avait pas été projeté à travers l'avant-cour du palais de Putiala par une explosion de pièces d'artifice. Pas plus qu'il n'avait... Kim commença à se raconter ses propres aventures des 3 derniers mois. Il y avait de quoi abrutir Saint-Xavier, même les grands qui se rasaient, si ça avait été chose permise. Mais il ne fallait naturellement pas y songer. Sa tête serait mise à prix en temps utile, l'organe Sahib s'en portait garant, et s'il allait maintenant en bavarder à la légère, non seulement ce prix on ne le fixerait jamais, mais le colonel Creighton ne voudrait plus entendre parler de lui, et il serait abandonné au ressentiment de l'organe Sahib et de Mahboub Ali pour le court laps de temps qui lui resterait à vivre. « C'est ainsi que je perdrai Delhi pour un poisson, » conclut-il, philosophant en proverbe. Il convenait qu'il oublia ses vacances. Il resterait toujours le plaisir de forger des aventures imaginaires. Et, comme disait l'organe Sahib, de travailler. Parmi tous les élèves qui se hâtaient vers Saint-Xavier, de Soucourt dans les sables, à Galles sous les palmes, pas un ne nourrissait plus de vertu que Kimball O'Hara, sautillant vers Umballa derrière Huri Shunder Mukherjee, dont le nom sur les registres d'une section du service de renseignement ethnologique s'écrit R-17. Et s'il fallait un coup d'éperon de plus, le babou y supplérait. Après un énorme repas à Kalka, il parla sans interruption. Kim allait donc à l'école? Alors, comme M.A. de l'université de Calcutta, il lui expliquait les avantages de l'éducation. Il y avait des points à gagner, en ne négligeant pas le latin ni l'excursion de Wordsworth. Tout cela était du grec pour Kim. Le français aussi formait une question vitale, et le meilleur s'apprenait à Chandernagore, à quelques milles de Calcutta.
Un homme pouvait également aller loin, à l'instar de lui-même, en prêtant une stricte attention à des pièces de théâtre appelées Lear et Jules César, toutes deux fort demandées par les examinateurs. Lear n'était pas aussi plein d'allusions historiques que Jules César. Le livre coûte 4 annas, mais on peut l'acheter d'occasion à Beau Bazar pour 2. Il reconnaissait, pour plus important encore que Wordsworth ou que les auteurs éminents, Burke et Hare, l'art et la science de l'arpentage. Un garçon qui avait passé son examen en ses branches, pour lesquelles, entre parenthèses, il n'y a pas de manuel, pouvait, en se promenant simplement dans un pays avec une boussole, un niveau d'eau et de bons yeux, remporter dans sa tête une image de ce pays bonne à vendre contre de grosses sommes en monnaie d'argent. Mais, comme il peut se trouver inopportun de promener des chaînes d'arpenteurs, l'élève ferait bien d'apprendre la longueur précise de son propre pas, de façon que, privé de ce que Hury Schunder appelait « des secours adventices », il put mesurer encore ses distances. Pour garder le compte des milliers de pas, son expérience n'avait rien enseigné de meilleur à Hury Schunder qu'un rosaire de 81 ou 108 grains, car c'était divisible et subdivisible en nombres multiples et sous-multiples. À travers toute cette grêle d'anglais, Kim saisit le fil général de la conversation. Elle l'intéressait vivement. Il s'agissait d'une nouvelle science qu'un homme pouvait serrer dans sa tête, et à contempler le vaste univers qui se déroulait sous ses yeux, il paraissait bien que plus un homme sait de choses, mieux cela vaut pour lui. Quand il eut parlé pendant 1 heure et demie, le babou ajouta « Je compte sur le plaisir un jour de faire officiellement votre connaissance. » Ad interim, si j'ose employer cette expression, je vous donnerai cette boîte à Bethel qui est un article de haute valeur et ne me coûta pas moins de 2 roupies il y a 4 ans. C'était un bibelot de cuivre bon marché en forme de cœur à 3 compartiments, destiné aux éternelles noix de Bethel, à la chaux et à la feuille de panne, mais rempli de petites fioles à pilules. C'est la récompense du mérite pour votre habileté dans le rôle de ce saint homme. Vous voyez, vous êtes si jeune que vous pensez devoir durer toujours et ne vous souciez pas de votre corps. Cela dérange fort de tomber malade en pleine besogne. Je suis moi-même amateur de drogue et cela sert aussi pour guérir les pauvres. Celles-ci sont de bonnes drogues officielles, quinine et le reste. Gardez-les en souvenir. Maintenant, au revoir. J'ai une affaire personnelle et urgente ici, au bord de la route. » Il se laissa glisser sans bruit, comme un chat, sur la route d'Umbala. Et là, un Eka qui passait et disparut dans le fracas des ferrures, tandis que Kim, la langue liée, tournait la boîte de Bethel en cuivre entre ses doigts. L'historique d'une éducation n'intéresse guère que les parents du héros, et comme on sait, Kim était orphelin. Les registres de Saint-Xavier in Partibus témoignent de l'envoi d'un rapport trimestriel sur les progrès de Kim au colonel Creighton et au père Victor, des mains duquel l'argent de la pension arrivait régulièrement. Les mêmes annales font foi de grandes aptitudes de l'élève Kim pour les sciences mathématiques et la topographie, ainsi que d'un prix remporté. La vie de Lord Lawrence vaut Racine, 2 volumes, 9 roupies, 8 annas, pour sa force en ces matières. Le même trimestre, il figurait dans l'équipe de cricket de Saint-Xavier, contre le collège mahométan d'Al-Ligour, à l'âge de 14 ans, 10 mois. On le revaccina, d'où on peut présumer une nouvelle épidémie de petite vérole à Lucknow, à peu près à la même époque. Des notes au crayon, en marge d'un vieux rôle d'appel, rapportent qu'il fut puni à plusieurs reprises pour « converser avec des personnes peu recommandables ». Et il paraît qu'il subit une fois des peines sévères pour absence d'une journée en compagnie d'un mendiant des rues. C'est ce jour-là qu'il sauta la grille et resta jusqu'au soir à supplier le lama le long des rives de la Goumti afin de l'accompagner sur la route aux prochaines vacances. Pour un mois, une petite semaine, et que le lama lui opposa un visage de pierre, affirmant que le moment n'était pas encore venu. L'affaire de Kim, dit le vieillard, tandis qu'ils mangeaient ensemble des gâteaux, consistait à acquérir toute la sagesse des sahibs, et alors, lui, verrait. La main de l'amitié devait avoir détourné le fouet de la calamité, car 6 semaines plus tard, Kim passait un examen d'arpentage élémentaire, avec mention honorable, à l'âge de 15 ans, 8 mois. À partir de cette date, le livre se tait. Le nom de Kim n'apparaît pas dans la fournée annuelle des candidats fonctionnaires du service topographique de l'Inde. Mais en regard, on lit ces mots « déplacé en service spécial ». À plusieurs reprises pendant ces 3 années, le temple de Tirthankaras, à Bénarès, vit reparaître le lama un peu plus maigre et plus jaune chaque fois, si c'est possible, mais aussi doux et candide que jamais. Tantôt il arrivait du sud, plus bas que Tuticorin, d'où les merveilleux bateaux à feu vont à Ceylan, pays de prêtres qui parlent pali, tantôt de l'ouest, humide et vert, et des 1000 cheminées d'usines qui font une ceinture à Bombay. Et une fois, du nord, ayant refait 800 milles pour causer une journée avec le gardien des images de la Maison des Merveilles. Il gagnait à grands pas sa cellule au mur ciselé dans le marbre frais. Les prêtres du temple montraient de la bienveillance au vieillard, lavaient la poussière du voyage, faisaient sa prière et partaient pour Lucknow, sans appréhension désormais du train, en wagon de 3e classe. À son retour, on pouvait constater, comme son ami le chercheur le fit remarquer au chef des prêtres, qu'il cessait pour un temps de déplorer la perte de sa rivière, ou de dessiner d'étonnantes images de la roue de vie, et qu'il préférait parler de la beauté et de la sagesse de certains chelas mystérieux que personne au temple n'avait jamais vus. Oui, il avait suivi les traces des pieds bénis par toute l'Inde. Le conservateur du musée possède encore un merveilleux récit de son itinéraire et de ses méditations. Il ne lui restait dans la vie qu'à trouver la rivière de la flèche. Pourtant, des rêves l'avaient assuré que pareille entreprise n'aboutirait que si le chercheur marchait en compagnie de l'unique chela désigné pour mener l'événement à bonne fin, chela versé en grande sagesse, tel que possèdent les gardiens d'images à cheveux blancs. Pour citer un exemple, ici apparaissait la gourde apprisée et les bons prêtres jaïns se dépêchaient de faire silence. Il y a longtemps, longtemps, quand Devadatta régnait à Bénarès, que tous écoutent le Jagata. Les chasseurs du roi capturèrent pour quelque temps un éléphant, auquel, avant qu'il recouvrât sa liberté, on avait scellé un douloureux anneau de fer. S'efforçant de s'en délivrer dans la haine et la frénésie de son cœur, il courait par les forêts, suppliant ses frères éléphants de le briser pour lui. L'un après l'autre, à l'aide de leurs fortes trompes, ils essayèrent en vain. À la fin, ils déclarèrent, comme leur conviction profonde, qu'aucune puissance bestiale ne parviendrait à rompre l'anneau. Et dans un fourré, gisait, nouveau-né, tout moite encore des sueurs de la naissance, un éléphanteau d'un jour, dont la mère était morte. L'éléphant enchaîné, oubliant sa propre agonie, dit « Si je ne viens pas en aide à ce nourrisson, il périra sous nos pieds !» De sorte qu'il se tint debout, au-dessus de la jeune créature, arc-boutant ses jambes contre les mouvements et l'inquiétude de la horde. Et il mendia du lait à une femelle vertueuse, et l'éléphant à l'anneau devint son guide et sa défense. Or, l'éléphant, que tous écoutent le Jagata, atteint sa pleine croissance à 35 ans. Et pendant 35 pluies, l'éléphant à l'anneau vint au secours du plus jeune. Et tout le temps, l'entrave rongeait sa chair. Alors, un jour, le jeune éléphant vit le fer à demi disparu dans la blessure et se tournant vers l'aîné, dit « Qu'est-ce ceci ?»« C'est ma douleur même, » dit celui qui l'avait secouru. Alors, l'autre allongea sa trompe et, en un clin d'œil, détruisit l'anneau, disant « Le temps fixé s'accomplit. » Ainsi, l'éléphant vertueux qui avait attendu dans la tempérance et fait des actes de bonté fut délivré, au temps fixé, par le même éléphanteau qu'il avait chéri après s'être détourné de sa route. Que tous écoutent le Jataka, car l'éléphant était Ananda, et le jeune qui brisa l'anneau n'était autre que le Seigneur lui-même. Puis il secouait la tête avec bénignité, et parmi l'incessant cliquetis du rosaire, il faisait voir à quel point cet éléphanteau était exempt de tout péché d'orgueil. Il montrait la même humilité que tel Shela, qui, voyant son maître assis dans la poussière au seuil des portes de science, franchissait les portes, bien qu'elles fussent closes, et prenait son maître sur sa poitrine en présence de la cité au cœur orgueilleux. Riche la récompense qui attendait un tel maître et un tel Shela, quand viendrait le temps pour eux d'aller quérir ensemble l'affranchissement. Ainsi parlait le lama, en allant et venant à travers l'Inde avec aussi peu de bruit qu'une chauve-souris. Une vieille femme, à langue acérée, dans une maison blottie parmi les vergers derrière Saharumpur, l'honorait à l'occasion, comme la femme honora le prophète. Mais sa chambre n'était pas près du mur. En un appartement de la cour d'entrée où roucoulaient du haut des murs des colombes en sentinelle, il l'écoutait, tandis que, rejetant son voile inutile, elle jasait, esprit et démon de Koulou, petit-fils à naître, et rappelait le marmot sans vergogne qui lui avait parlé à l'étape. Une fois aussi, il erra tout seul de la grande route au-delà d'Umbala jusqu'au village où le prêtre avait tenté de le droguer. Mais le ciel débonnaire, qui garde les lamas, le mena au crépuscule à travers les récoltes, toujours absorbé comme sans défiance, à la porte même du Resaldar. Ici semble s'être produit un grave malentendu, car le vieux soldat lui demanda pourquoi l'ami des étoiles était passé par là il n'y avait que 6 jours. Cela ne peut être, dit le lama. Il est retourné chez les siens. Il était là, dans ce coin, à nous raconter sans folie, il y a 5 nuits, insista l'hôte. C'est vrai, il s'est évanoui quelque peu soudainement au petit jour, après avoir batifolé avec ma petite fille. Il grandit vite. Mais c'est le même ami des étoiles qui m'apporta la nouvelle de la guerre. Vous êtes séparés ?
Oui et non, répondit le lama. Nous ne nous sommes pas séparés tout à fait, mais le temps n'est pas mûr pour que nous puissions prendre la route ensemble. Il acquiert de la sagesse en autre lieu. Il nous faut attendre.
Peu importe, mais si ce n'était pas l'enfant, comment aurait-il parlé si continuellement de toi ?
« Et qu'a-t-il dit ?» demanda vivement le lama.
« Des mots d'affection. 100 000, que tu aies son père et sa mère, et tout le reste. Dommage qu'il ne prenne pas du service dans les troupes de la reine. Il n'a peur de rien. »
Ces nouvelles confondirent le lama. Il ignorait alors combien Kim observait religieusement le contrat passé avec Mahbub Ali et ratifié à contre-cœur par le colonel Creighton.
« Il n'y a pas à retenir le jeune poney loin du jeu, » dit le maquignon en entendant le colonel remontrer l'absurdité de ce vagabondage à travers l'Inde pendant les vacances. « Si on lui refuse la permission d'aller et venir comme bon lui semble, il passera outre ce refus. Alors, qui l'attrapera ?»«
Colonel Sahib, il n'est une fois en 1000 ans un cheval aussi bien taillé pour le jeu que ce poulain-là. Et nous avons besoin d'hommes !»